بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc inchallah on va compléter ce soir le chapitre qu'on avait commencé depuis pas mal de temps concernant les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième catégorie qu'on avait citée, c'était le hadith qui stipule que parmi ces personnes, il y aura Shabun Nasha'a fi ta'atillah, le jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et depuis 4 ou 5 séances, on avait cité différentes histoires de sahaba, de jeunes sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, qui avaient fait des efforts exceptionnels sur le plan spirituel, sur le iman, sur leur foi, qui avaient fait des mujahadas, des sacrifices énormes pour la nusrat du din, pour aider le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière histoire qu'on avait citée, c'était l'histoire de Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, un des jeunes sahaba qui a porté le serment d'allégeance, qui a fait le bay'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 7 ans et selon certaines sources à l'âge de 8 ans. Et on avait vu également que à l'âge de 26 ans, Abdullah ibn Zubayr est dans une des armées musulmanes qui est en guerre contre d'autres tribus qui voulaient donc les attaquer. Et on a vu que Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, il avait que 26 ans, il s'est illustré dans une des batailles contre ce roi, on va dire ce gouverneur plutôt romain qui s'appelait Jirgir, et en plus de mener l'armée des musulmans vers la victoire, sur le plan de la guerre psychologique également, sur le plan de la tactique, tactique de guerre, Ibn Zubayr radiallahu anhu a montré toute son intelligence. Lorsque le commandant Jirgir avait dit que celui qui ramènera la tête, qui pourra tuer le commandant de l'armée des musulmans, je lui donne ma fille en mariage et lui donne telle somme d'argent. Et donc le commandant, le amir des musulmans avait peur, il a compris que toute l'armée adverse va s'acharner contre lui. Et donc immédiatement Ibn Zubayr radiallahu anhuma a pris les devants et il a fait la même proposition: celui qui parviendra à tuer Jirgir, il aura la même somme d'argent et on lui donnera la fille de Jirgir en mariage. Donc sur le plan shaja'a, sur le plan de force psychologique, courage, force spirituelle, ces jeunes sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in étaient véritablement des exemples. Il y avait une petite anecdote qu'on voulait citer la dernière fois et qu'on avait oublié. Si je ne me trompe pas, ça concerne Abdullah ibn Zubayr. Je suis à 90% sûr que cela concernait Abdullah ibn Zubayr. Il y avait un récit qui dit que pendant une des batailles, Abdullah ibn Zubayr était tellement courageux qu'il a demandé aux autres sahaba de le catapulter dans le camp adverse. Il voulait vraiment, subhanallah, donner le maximum de lui-même. Il a demandé à être catapulté dans le camp adverse. Et ils l'ont fait, d'accord. Il est arrivé dans le camp adverse et subhanallah, avec sa force et son courage, il est arrivé à bout d'une quantité d'ennemis. Et pour qu'on sait cette histoire, le but c'est pas de dire on n'encourage pas la violence, soit là c'est la guerre. Là c'est la guerre où si c'est pas le musulman qui tue le romain, c'est le romain qui tue le musulman. Et cette notion de guerre, elle existait à toutes les époques. Donc là il fallait se battre pour se défendre. Mais malheureusement cette histoire est souvent détournée par depuis une dizaine d'années par les personnes qui se disent, j'aime pas trop le mot, les personnes qui se disent des kamikazes, d'accord. Ils se disent qu'on a le droit de se tuer, de se suicider pour la cause de la religion, entre guillemets, tout ça sans guillemets. Et un de leurs preuves, c'est cette histoire. Ils disent que voilà, ben lui il s'est catapulté dans l'armée ennemie et donc c'est un suicide dans le but de provoquer le maximum de dégâts dans l'armée ennemie. Mais les ulama, lorsqu'ils ont compris quel était l'objectif de ces personnes qui utilisaient, qui détournaient un peu ce récit, ils ont immédiatement rectifié le tir. Abdullah ibn Zubayr l'a fait par courage, parce qu'il sait pertinemment en tant que sahaba, voilà, qu'une personne n'a pas le droit de se jeter, de se précipiter dans sa destruction, donc de se suicider. Donc c'était un geste de guerre. Il a voulu être précipité, catapulté dans l'armée ennemie pour se battre. Et son but n'était pas de se suicider. Parce que tout le monde connaît l'histoire également du sahaba qui, après une guerre, il était tellement blessé il était tellement blessé qu'il souffrait tellement qu'à un moment donné, il a retourné l'épée contre lui-même et il s'est donné la mort. Et le prophète a décrit cela comme un péché. Hein, cette personne s'est suicidée malgré que la personne était souffrante. Donc les sahaba connaissaient quelle est la différence entre se battre et se suicider. Donc ce que Abdullah ibn Zubair avait fait à cette époque ne peut en aucun cas être assimilé à un acte de suicide. Et donc ce que les kamikazes disent en se donnant la mort entre guillemets pour la cause de la religion, c'est un argument complètement déviant qui n'a aucun rapport avec l'action de Abdullah ibn Zubair radiallahu anhuma. Et donc comme on l'a dit, on va clôturer ce chapitre ce soir. Et l'objectif, quand on citait la biographie de différents sahaba et comme ce soir de certains tabi'in, des descendants, ceux qui ont vu les sahaba, l'objectif c'est de comprendre que subhanallah, ces jeunes, malgré leur jeunesse, ils avaient un courage et une bravoure qui leur a amené à ce degré de din. Et si le prophète alayhi salat wa salam nous dit qu'Allah a réservé une place sous l'ombre de son trône pour ces personnes qui ont donné leur jeunesse dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire que ce sacrifice-là, il est particulièrement apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tellement d'exemples, si on quitte le tabaqa des sahaba, on quitte la génération des sahaba, on va vers les tabi'in et ceux qui viennent après. On a l'histoire de Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi, et ça nous concerne un peu plus. C'est une personne qui, à son époque, a conquis As-Sind. As-Sind, c'était une région qui englobait l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Cachemire. C'est-à-dire, c'est ce jeune homme-là qui n'avait que 17 ans, mais il était le chef de l'armée qui était parti dans ces régions pour apporter la vérité, pour apporter Al-Haq. Donc, à l'âge de 17 ans. On avait, je pense, une fois cité l'exemple de Omar ibn Abdelaziz, et dans différentes occasions, on avait cité certains récits concernant son équité, très célèbre, la justice, la notion de justice chez Omar ibn Abdelaziz. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa jeunesse. Et si on avait à citer qu'une seule, une seule anecdote de sa jeunesse, il y a une histoire qui dit que Baka wa huwa ghulamun saghirun fa sa'alathu ummuhu an sirri bukaihi qala dhakartu al-maut. Une fois sa maman, il voit son enfant, c'est-à-dire Omar ibn Abdelaziz, en train de pleurer. Il est encore petit, c'est encore un enfant, sa maman le voit pleurer. Et la maman lui demande, pourquoi est-ce que tu pleures? Et Omar ibn Abdelaziz, il répond, dhakartu al-maut, je pense à la mort et ça me fait pleurer. C'est l'histoire d'un enfant. Les gens voient un enfant pleurer parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, qu'il a mal, qu'il a besoin de telle chose. Omar ibn al-Aziz, il a encore un enfant, mais il pleure déjà en pensant à la mort. Quand on dit qu'il pleure en pensant à la mort, c'est pas qu'il veut pas mourir. C'est qu'il pense qu'un jour il va mourir, il va retourner auprès d'Allah. Il aura donc des comptes à rendre. Ça, c'était le degré, subhanallah, de iman de ces gens. Mais si c'est de ces jeunes, si des enfants ont un tel degré de foi, c'est qu'ils ont été éduqués avec des principes spirituels. C'est que leurs parents, le papa et la maman, leur ont donné les bases spirituelles, les bases du iman, les bases de la foi. Donc, ce n'est pas un miracle que de voir des enfants qui ont de telles réactions. C'est qu'à la base, alhamdoulilah, ils ont eu des parents qui ont donné la tarbiya islamia, l'éducation islamique nécessaire. Et encore une fois, on dit, l'objectif, quand on parle de l'histoire de ces jeunes sahaba, de ces jeunes tabi'in qui ont vécu, qui ont passé l'essentiel de leur jeunesse de l'obéissance d'Allah, c'est pour qu'on comprenne bien et qu'on change un petit peu notre vision des choses. Très souvent, quand on pense à un sahaba, on voit immédiatement une personne âgée, une personne avec une grande barbe blanche, avec vraiment une personne âgée, vraiment qui reste dans la masjid, et on ne s'imagine pas que les plus grands sahaba ont fait l'essentiel de leur effort pour le dîn lorsqu'ils avaient 17, 18, 19 ans, c'est-à-dire avant l'âge de 30 ans. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal leur a accordé cette gratification de radiyallahu anhum wa radu an. Et c'est pour ça également que par rapport à ce sacrifice, Allah Azza wa Jal réserve une place spéciale pour les jeunes qui ont passé leur jeunesse dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant dernier ou alors un ou deux avant la fin, Imam al-Shafi'i, rahimahullah, qu'on ne présente plus, c'était un des imams, un des fuqaha, un des plus grands savants, éminents savants en termes de jurisprudence islamique. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il était orphelin. Il dit une fois, il raconte son histoire, j'ai été voir Malik, Imam Malik, et il dit, j'avais 13 ans. Et Imam Malik, il m'avait convoqué parce qu'il savait que Shafi'i, qui était encore un enfant, il avait que 13 ans, avait un don pour la lecture et tout. Et donc, Imam Malik, rahimahullah, il demandait à ce jeune, à cet enfant de lui réciter, de lire des pages de hadith. Et il dit que quand je lisais un hadith, et qu'à un moment donné, Malik m'arrêtait, il me disait de répéter. À un moment donné, il s'arrête, il veut entendre une deuxième fois le hadith, il dit, répète ce hadith. Et là, je le répétais de tête. C'est-à-dire que le simple fait de lire une fois un hadith, il le mémorisait immédiatement. Et c'est là qu'Imam Malik, rahimahullah, a remarqué l'intelligence de cet enfant. Et là, il a dit que je pense que tu devrais faire des études islamiques et devenir qadi. Anta yajibu an takuna qadi. Il faut absolument que tu fasses tes études pour devenir un jour un juge, un qadi. Et Imam Shafi'i, rahimahullah, il a grandi également, il a passé une grande partie de sa jeunesse dans le Hijaz, de la péninsule arabe. Et c'était à cette époque-là, à l'époque d'Imam Shafi'i, on commençait à voir l'apparition de ce qu'on appelle, à notre époque, des philosophes, hein, des Ahlul Kalam, des Ahlul Ra'y, des musulmans, d'accord, des musulmans, mais qui avaient tendance à ramener les textes vers un esprit logique, vers un esprit cohérent, hein, des personnes qui n'acceptaient pas trop les textes en rapport avec l'invisible et qui voulaient donner une explication entre guillemets humaine, logique, cohérente à toute chose. On appelait ça les Ahlul Ra'y. Et il y avait très peu de personnes qui pouvaient dialoguer, qui pouvaient argumenter avec ces gens. Il y avait des spécialistes de fiqh, de masla, des spécialistes de hadith, de tafsir, de Qur'an, mais peu de gens pouvaient tenir un dialogue avec ce genre de personnes qui mélangeaient philosophie. Et quand on parlait de philosophie à cette époque, c'était la philosophie directement venue de Grèce, de Yunan. Et ça, c'est la philosophie la plus dangereuse. D'accord ? Et donc, il y avait peu de gens qui avaient le potentiel, la capacité de répondre à leurs arguments. Et Imam Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'il a, alhamdulillah, il a acquis un peu plus de ilm, de sciences religieuses, il a commencé à mener les débats contre ces personnes et à les ramener vers la vérité. Il avait la possibilité de faire comprendre à ces personnes le maqsad, le fahmul kitab, le maqsad du Qur'an, le maqsad de la sunna. Il savait également avec habilité expliquer les nasikh wal mansukh, les textes qu'Allah, les versets qu'Allah a révélés parfois pour abroger d'autres textes ou des hadiths qui abrogent d'autres hadiths. Également, al-jam'u bayna ma zahiruhu at-ta'arud. Et il savait exactement comment faire le jam'u, la fusion entre des textes qui avaient l'air contradictoires. C'est-à-dire, au-delà de comprendre la science du Coran et du Hadith, il avait vraiment un recul nécessaire sur toutes les sciences religieuses. Et donc, à chaque fois qu'une personne s'interposer dans les débats, disait que oui, mais il y a tel hadith qui va en contradiction avec tel hadith, mais pourquoi dans tel verset Allah dit telle chose et dans tel verset il y a apparemment une contradiction? C'est-à-dire des choses que peut-être un mufassir ou un muhadith aurait peut-être un peu plus de mal à répondre. Imam Shafi'i, rahimahullah, il avait une telle science religieuse qu'il pouvait aisément répondre à ces gens et entre guillemets faire taire toutes les critiques sur le Coran et la Sunna. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, une fois, hein, il avait rencontré, et Ahmad ibn Hanbal avait fait les éloges de Imam Shafi'i, et certaines personnes étaient étonnées que Imam Ahmad, bon là c'est des noms peut-être qu'on ne connaît pas trop, hein, le cheikh de Imam Shafi'i s'appelait Ibn Uyayna, et à un moment donné, Imam Ahmad, il allait s'asseoir au dars, au cours d'Imam Shafi'i, et il délaissait le cheikh de Shafi'i. Alors qu'Imam Shafi'i était un jeune homme, et les gens ne comprenaient pas comment Imam Ahmad délaissait le cheikh, c'est-à-dire celui qui donne les cours de hadith, pour aller écouter les dars, les cours de l'élève. Mais Imam Ahmad avait compris que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et cette petite anecdote, hein, où on a cité l'histoire de Imam Malik, Shafi'i, Imam Ahmad, à peu près à la même époque, ça nous montre également quel était le muhabba entre les ulama à cette époque. Quel était le muhabba entre les gens de ilm, entre les gens de science. C'est vraiment animé par la sincérité, le ikhlas, le désir de trouver le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, dans l'histoire, Imam Shafi'i, il dit, وَلَقَدْ جَلَسَ. Ça c'est des livres d'histoire, hein. وَلَقَدْ جَلَسَ لِلْإِفْتَاء وَهُوَ لَمْ يَتَجَاوَزْ الْعِشْرِينِ مِنْ عُمْرِ. Avant l'âge de 20 ans, il donnait déjà des fatwas. Il donnait déjà des fatwas, il faisait des majlis où il donnait des fatwas à chaque personne qui venait. C'est un jeune homme qui est devenu un des plus grands savants de l'islam. Et ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est que c'est pas parce qu'ils ont vécu à une autre époque que à cette époque-là, les jeunes n'avaient pas de pulsion, n'avaient pas de passion, n'avaient pas, hein, d'envie de faire les erreurs, des péchés que notre jeunesse commet actuellement. Non, ça c'est la nature humaine. Les mêmes shahawat, les mêmes pulsions existaient à toutes les époques, mais c'était des gens qui ont grandi dans un environnement religieux, ils ont une éducation correcte et ils ont développé la taqwa, la crainte d'Allah dans leur cœur. On avait parlé de Soufiane ibn Uyayna il y a quelques instants. Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit à propos de Soufiane ibn Uyayna, il dit que laoula Malik wa ibn Uyayna la da'a ilm al-Hijaz. Il dit, s'il n'y avait pas ces savants comme Imam Malik et ibn Uyayna, il n'y aurait pas eu de science dans la péninsule arabe. Et lorsqu'on parle de cette personne-là, il dit que il a commencé à étudier le hadith et à devenir un expert à l'âge de 15 ans. Et à l'âge de 15 ans, nos jeunes, ils font quoi? À l'âge de 15 ans, ils sont experts en tweet, ils sont experts en Facebook, en notification, ils sont experts en PSP, en tous les trucs. Allahu musta'an. Ahmad ibn Hanbal, si on fait le tour des A'imma, Ahmad, Imam Ahmad, rahimahullah également, très jeune, il avait commencé à apprendre la science religieuse. Il dit que kuntu, subhanallah, un des tabi'in qui dit kuntu a'rifu Ahmad ibn Hanbal wa huwa ghulam wa huwa yuhyi al-layl. On se suffira de cette anecdote et c'est amplement suffisant. Il dit que je connais Imam Ahmad depuis qu'il était petit, il passait l'essentiel de ses nuits en tahajjud. Wa huwa yuhyi al-layl. Enfant, il passait ses nuits dans le tahajjud. Quand on dit ghulam, petit, c'est 12, 13 ans. 11, 12, 13 ans. C'est pas qu'il a 18 ans, 19 ans. Non, non. À 11 ans, 12 ans, 13 ans, il passait déjà ses nuits, l'intégralité de ses nuits, dans l'adoration d'Allah, dans le qiyam ul-layl, dans le tahajjud. Hein, c'est pour ça que, subhanallah, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces personnes-là, ils n'ont pas eu la science du jour au lendemain. C'est que dès leur jeune âge, ils ont fait un effort énorme sur le côté ta'abboudi, sur le côté du culte, les adorations. Dhikrullah, tilawatul Qur'an, lecture du Qur'an, qiyam, les salat, on n'en parle plus, salat al-jama'a, on n'en parle plus. Mais les qiyam ul-layl, les prières de la nuit, c'est en faisant autant d'efforts sur les a'mal, sur les bonnes actions, qu'Allah Ta'ala leur a ouvert les portes du ilm, les portes du taqwa, et que, subhanallah, ils sont devenus les personnes les plus connues du monde musulman. On finira avec Imam Bukhari, rahimahullah. Ah, Imam Bukhari, subhanallah, il est devenu hafiz de hadith à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire à l'âge de 10 ans, il était déjà devenu un expert en mémorisation de hadith. Et Imam Bukhari, il dit, à l'âge de 16 ans, je connaissais déjà la compilation de hadith de Ibn al-Mubarak, de Waqi', et je connaissais les chaînes de narration également. Il dit qu'à l'âge de 16 ans, et qu'on parle des compilations de hadith, hein, c'est pas 2, 3, 4 hadiths, c'est des milliers et des milliers et des milliers de hadiths. Et là, on parle peu de hafiz du Coran. Le Coran, il avait déjà appris, subhanallah, très tôt, et il est devenu hafiz dans la science de hadith. Il mémorisait les hadiths. Et ces ulama-là, lorsqu'ils mémorisaient les hadiths, ils mémorisaient le matan, le texte, mais ils mémorisaient également le sanad, les chaînes de narration. Et les chaînes de narration, c'est pas quelque chose de simple, ça. C'est de pouvoir remonter chaque maillon des personnes qui ont rapporté. Parfois, il y a 3, 4, 5, 6 qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un expert en hadith n'a pas le droit de se tromper dans un nom dans une chaîne de narration. Alors nous, si on dit que parmi les shababs, les jeunes qui sont là, vous connaissez combien de hadiths par cœur, pas en français, ni en créole, hein, en arabe, bah, « Innamal amal bin niyyat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifa », etc. Les hadiths de base qu'on apprend à madrasa. Mais là, on parle des milliers et des milliers de hadiths en mémorisant la chaîne de narration. Ils avaient un cerveau comme nous, hein. C'est pas qu'ils étaient surdoués, non. Mais ils avaient utilisé ce ni'ma qu'Allah leur a accordé, la santé, l'équilibre psychologique. Ils l'avaient consacré ça uniquement au ilm, à l'adoration d'Allah déjà, en tant que, depuis leur plus jeune âge, et ensuite pour l'apprentissage de la science religieuse. Il dit qu'à l'âge de 16 ans, je suis parti à Mecca avec ma maman et ma mère est retournée avec mon frère et les autres personnes de la famille, et moi je suis resté à Makkatul Mukarrama pour continuer, pour m'approfondir encore plus dans la science du hadith. À l'âge de 18 ans, il dit que, à l'âge de 18 ans, il écrit déjà des musannafat, des compilations, des textes à propos de la vie des sahaba et de la vie des tabi'in et de leur opinion dans la science religieuse. À l'âge de 18 ans, là, il commence déjà à écrire des compilations de livres. Ibn Abi Shayba, il dit que, oui, Ibn Abi Shayba, c'est bon, ça c'est d'autres savants, quoi, il dit que il a écrit une compilation de hadith qui s'appelle At-Tarikh al-Kabir. At-Tarikh al-Kabir, dans la ville Mubarak, de Madina Munawwara, près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est âgé seulement de 18 ans. Il dit que, il raconte également, lorsqu'il est parti de la ville de Basra, donc en Irak, Il y avait l'éclat de la ville, ya ahl al-ilm, laqad qadima Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. On a dit que lorsqu'il est arrivé à Basra, hein, les gens ils ont lancé l'éclat dans toute la ville que Imam Bukhari est arrivé. Je ne sais pas si c'est la même anecdote, mais quand on avait appris Bukhari Sharif également, notre professeur nous avait expliqué que lorsqu'il était parti dans une région, je ne sais pas si c'était Basra ou ailleurs, les gens connaissaient, ils avaient entendu parler de l'imam Bukhari, d'accord? Mais ce n'est pas comme à notre époque, quand vous voulez savoir, par exemple, le nom d'un savant, Muhammad Ali, Fi Al-Qarni, vous allez sur Internet, sur Google, vous tapez son nom, et vous avez Google Images, vous savez à quoi il ressemble. Non. Il n'y avait pas possibilité de savoir à quoi il ressemblait. Donc les gens entendaient parler de l'imam Bukhari. Et beaucoup de gens, comme nous, ils croyaient que voilà, l'imam Bukhari est arrivé, et ils vont voir un vieux monsieur d'une grande barbe blanche qui s'assoit et qui... Non, ils ont vu un jeune homme, 18 ans. 18 ans qu'il avait, qu'il donnait déjà des quads hadith, et les gens l'invitaient dans toutes les régions pour donner des quads hadith. Et les gens, ils ne savaient pas, ils disaient, il est où l'imam Bukhari? C'est lui, ce jeune homme-là. Subhanallah, c'est lui. Et quand ils l'entendaient citer les hadiths, distribuer les matins les hadiths avec les chaînes de narration, là les gens ils ont réellement compris que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et donc lorsqu'il est parti à Basra, il dit qu'il y a eu Irlande, que l'imam Bukhari est arrivé, et là, qui c'est qui est venu pour son dars? Que les muhaddithines, les experts en hadith, les huffaz, les fuqaha et les experts en jurisprudence, c'est-à-dire que les grands savants. Tous les grands savants de Basra se sont réunis. Il y avait à peu près 1000 de chaque catégorie. Subhanallah, c'est pas un majlis où il y a n'importe qui, c'est que les grands savants de l'islam de cette région Basra qui était subhanallah un puits de connaissances, d'accord? Ils se sont réunis. Et Imam Bukhari, il savait exactement quel genre de hadith il allait rapporter à ces gens. Il leur a rapporté des hadiths uniquement des personnes, des chouyours qui étaient de cette région. Et il disait que, vous savez, tel, il a cité les hadiths, mais c'est un petit peu technique, je ne sais pas si on va bien comprendre. Il citait les hadiths, il dit que ce sont des hadiths, des textes, des matanes que vous connaissez, mais vous connaissez avec cette chaîne de narration, et moi je vous raconte les mêmes hadiths avec telle autre chaîne de narration. Il dit que lorsque les muhadithines ont écouté, ils ont entendu, subhanallah, la science de l'imam Bukhari dit que, les gens se sont étonnés comment un jeune homme hein, peut avoir une telle mémoire, une telle connaissance dans le ilm, le hadith, dans la science du hadith. Histoire également de Imam al-Razi, rahimahullah, Abu Zur'a al-Razi, il dit qu'il a commencé à apprendre la science religieuse à l'âge de 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, il est parti pour 15 années d'études dans différentes régions. À l'âge de 13 ans, il quitte, il s'en va et il revient dans son village à l'âge de 32 ans. Ça, c'était Mujahada. C'est pas comme, enfin, sans critiquer personne, nous jeunes tullab al-ilm, ils vont tous les 2 mois, 3 mois, ils reviennent. C'est une bonne chose. Il y a des avions, il y a tout ça, alhamdoulilah, on va pas s'en plaindre. Mais il y va à tel pays, donc au bout de 6 mois, il revient une petite vacance, une petite coupure, ce qui est une bonne chose, pour garder contact avec la société, pour connaître l'évolution des mœurs, etc., etc. Mais subhanallah, lorsqu'on parle des grands savants, il quitte son village à 13 ans et il revient uniquement à l'âge de 32 ans. C'est-à-dire, tout ce temps-là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas le confort, il pense pas comment je vais faire, appartement, marié, madame, tout ça, là, wallah. C'était vraiment le ville consacré pour le ilm, pour la science religieuse, et ils sont devenus des experts, des grands ulama. Imam At-Tusturi, rahimahullah, également, lui, il est parti apprendre la connaissance religieuse à l'âge de 9 ans. Il dit qu'à l'âge de 12 ans, hajib, kalam hajib ça, wa kanat tulqa mushkilatul masail ala al-ulama. Il assistait à des majlis avec des savants, pas avec le public, avec des savants, et on exposait des masa'il compliqués, des masla difficiles à comprendre. On va dire peut-être des fatwas. ثم لا يوجد جوابها إلا عنده وهو ابن 12 سنة. Dit que c'était le seul de l'assemblée qui pouvait trouver les réponses à ces masla compliqués, et il était âgé de 12 ans. Il avait 12 ans, il assistait au majlis des grands savants, des grands fuqaha, des grands experts en jurisprudence, et c'était le seul qui pouvait trouver les réponses aux masa'il compliqués. Également, Imam Al-Kandi, rahimahullah, grand expert en qira'a, ça c'est des choses qu'on aime bien ici, il dit qu'il a appris le Coran, bien sûr, il était très petit, et à l'âge de 10 ans, il mémorisait certes le Coran, mais il mémorisait également toutes les lectures du Coran. Les 10 lectures du Coran. D'accord ? Selon certains savants, il y a 7 manières de lire. Selon d'autres savants, il y a 10 façons de lire. Mais lui, à l'âge de 10 ans, il était hafiz al-Qur'an et il savait lire le Qur'an des 10 façons. Imam al-Nawawi, rahimahullah, également, on connaît Imam al-Nawawi, c'est qui ? Commentateur de Sahih Muslim. Le plus célèbre commentateur de Sahih Muslim, lui aussi, s'est illustré à l'âge de 10 ans. Ça, c'est pour qu'on comprenne à partir de quel âge, subhanallah, on doit vraiment donner, subhanallah, toute la place au din dans la vie de notre enfant. Hein, il ne faut pas se dire que les enfants encore petits attendent 13 ans, 14, 15 ans, attendent qu'elle est balir, qu'on va y masjid, attendent, là, wallah. Si ces grands savants-là sont devenus, subhanallah, des a'immas, des experts dans tous les domaines de la religion, c'est que leurs parents, leur, subhanallah, ont donné cette science religieuse, cette éducation dès leur plus jeune âge. C'est dès l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on essaie de d'éduquer le maximum notre enfant, leur donner les vraies valeurs. Ibn Taymiyyah, on a entendu parler d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, expert en aqidah, expert en hadith, expert en tafsir, en toutes les sciences. À l'âge de 10 ans, il était déjà devenu un expert. Il était hafid al-Qur'an, expert en langue arabe. À l'âge de 10 ans, subhanallah, il a étudié un livre d'un grand savant de langue arabe qui s'appelle Sibawayh. Sibawayh, c'est, subhanallah, si qu'on parle de Sibawayh dans le monde arabe, c'est le top de la grammaire et de la conjugaison arabe. Et les ilms de tafsir, de usul fiqh. Donc l'objectif, hein, mes chers frères, on a cité beaucoup d'exemples, hein, et c'est peut-être des savants qu'on connaissait, des savants qu'on ne connaissait pas, d'accord, dans le monde arabe, dans tout le monde musulman d'une manière générale. Subhanallah, l'éducation islamique, quand le prophète alayhi salatu wa salam dit que mourou awladakum bis salah wa hum abna sab', ordonnez à vos enfants de faire leur salat à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, il faut déjà inculquer à nos enfants la compréhension du halal et du haram. Il ne faut jamais se dire que 6 ans, 7 ans, c'est trop petit. Non. À l'âge de 7 ans, un enfant doit faire ses 5 salats. Et à l'âge de 10 ans, on les réprimande s'ils ne font pas les 5 salats. C'est-à-dire que ces muhaddithin, ces mufassirin, ces fuqaha, ces a'imma, ces experts en lecture, en qira'a, en tajwid, en hifd al-Qur'an, ils ont eu cette éducation dès leur plus jeune âge et ils ont développé les qualités spirituelles de salat, de dhikrullah, lecture du Qur'an et qiyamul layl, tahajjud dès leur plus jeune âge. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala leur a ouvert les portes. Et comme l'expliquait hier aussi dans une autre assemblée, on doit être très attentif, hein, à l'éducation de nos enfants, parce que de l'autre côté, avec ce qui se dit dans la société, avec ce qui s'échange sur les réseaux sociaux, avec le discours ambiant qu'il y a dans la société d'une manière générale, dans les collèges, dans les lycées, nos enfants sont, subhanallah, vraiment dans des situations, risquent d'être dans des situations compliquées. Leur iman est en danger avec tout ce qu'on leur inculque, d'accord. Et hier on parlait un petit peu des problèmes liés à la sexualité, on parlait de quelques hadiths concernant les récompenses de ce jeune homme ou de cette jeune fille qui sera se protéger contre le zina. Verset qui est souvent cité, قد أفلح المؤمنون يا والذين هم لفروجهم حافظون, dans différents versets du Coran et différents hadiths, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah Ta'ala a promis le paradis, en ce sens, hein, Allah Ta'ala a promis le paradis pour celui qui saura se protéger du zina. Sahaba, donc le prophète d'Allah, quelles sont les choses qui amènent le plus de gens en enfer? Le prophète a dit, hein, la langue et les parties intimes. C'est-à-dire que quand on parle des parties intimes, les فروجهم حافظون, les mufassirin disent que se protéger de tout péché en rapport avec l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la masturbation. Si quelqu'un sait se protéger, fait en sorte que les pulsions que la personne elle éprouve dans sa jeunesse, ou même plus tard, hein, d'accord, la personne arrive à les canaliser, a fait en sorte de ne jamais mettre un pied dans le haram, donc c'est quelqu'un qui a fait preuve de taqwa. Parce que la taqwa, c'est de faire en sorte de ne jamais se mettre dans une situation où Allah Azza wa Jal sera mécontent de nous. Et la chose la plus dure, c'est pas de faire les bonnes actions. Parce que faire les bonnes actions, tout le monde fait. Quand on voit le mois de Ramadan, les masajids sont pleins. Tout le monde fait salat. Tout le monde fait tarawih, 20 rakat ou je sais pas combien, il reste, il lit le Coran. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est pas accomplir les bonnes actions. Le plus compliqué, c'est s'éloigner du péché. Le plus compliqué, c'est quand on a accès au haram, lorsqu'on a la possibilité de faire le haram, qu'on s'en éloigne, ça c'est une preuve d'amour d'Allah, c'est une preuve de taqwa, c'est une preuve de crainte d'Allah. Donc, On est bien conscient que dans les écoles et tout, on parle, il y a un discours très ouvert sur la sexualité et dès le plus jeune âge. Hein, on expliquait ça, il y a encore parfois dans les dessins animés même. Vous avez vu ce qui est arrivé aujourd'hui, pas hier, sur une chaîne pour enfants. 7 ans, 8 ans, 9 ans, un dessin animé, pendant quelques secondes, il y a eu des images pornographiques qui ont été diffusées. Et puis la chaîne s'est excusée, on parle des rois techniques. D'accord, il dit c'est la première fois en 13 ans. C'est pas impossible, d'accord? Mais c'est pas ça le plus choquant. Il y a des gens qui se sont offensés, disent que oui, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on a pu permettre aux enfants de voir quelques images, quel est l'impact psychologique sur ces enfants, etc. Pour moi, c'est pas ça le plus grave. C'est pas les 8 ou 9 secondes de pornographie qu'un enfant a pu voir. Le plus choquant, c'est quoi? C'est dans les dessins animés et dans les séries pour adolescents où subhanallah, il y a un véritable lavage de cerveau où on inculque une vision de la sexualité qui est totalement différente de ce que nous devons avoir de notre dîne. J'étais avec mes enfants il y a quelques jours en regardant des dessins animés, Tom et Jerry, les trucs Mickey, Donald, les trucs comme ça, mais c'est les nouvelles éditions. C'est pas comme quand nous on regardait il y a 15 ou 20 ans ou un peu plus, mais dans les dessins animés, on montre le petit canard femelle avec le petit canard mâle, ils s'embrassent sur la bouche, ils machin ensemble, et je regarde des Daffy Duck, des trucs comme ça. Bref, on va pas citer des dessins, mais on est en train de normaliser la relation garçon-fille. Et ça, c'est grave pour un enfant de 5 ans. Moi, je parle pas de 5 ans. Parfois, 3 ans, 4 ans, les enfants, ils sont devant la télé, regardent les dessins animés. Pour eux, donc, un petit garçon et une petite fille qui s'embrassent sur la bouche, d'accord, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est des images qui marquent l'esprit de l'enfant parce que c'est en train de fixer leur repère, leur base. Donc, dès le plus jeune âge, il faut faire attention à ce que nos enfants regardent à la télé. Et puis, quand on passe à un âge un peu plus, on va dire 8 ans, 9 ans, 10 ans, sur les chaînes pour enfants, je ne veux pas vous donner le nom des chaînes, mais sur les chaînes pour enfants, sur les bouquets satellites où il y a des dessins animés, dans les feuilletons, d'accord, dans les séries, la plupart des séries pour les ados tournent autour des histoires d'amour. Il y a Anna Montana, il y a je sais pas des trucs comme ça, où 12 ans, 13 ans, 14 ans, oui, si une fille ne sort pas avec un garçon, c'est qu'elle est coincée. C'est qu'elle est coincée. Voilà, toutes tes copines, elles ont un copain et tout, et celle qui n'a pas de copain, elle est pas normale, elle est triste, tout le monde l'encourage, tout le monde la console, il fait en sorte d'arranger une idylle avec un garçon, etc. Ça. Bref, c'est-à-dire que cet enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, lorsqu'il regarde ça, il va s'identifier. Il va s'identifier et pour lui, il est tout à fait normal qu'à mon âge, j'ai un petit copain ou j'ai une petite copine. Et quand on dit que les premiers rapports sexuels, il y avait encore des chiffres qui étaient diffusés aux infos hier, il y a 15 ans, 20 ans, c'était à l'âge de 20 ans, 21, 22 ans les premiers rapports. Maintenant, c'est à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et quand on voit que dans les écoles, dès la quatrième, je ne trompe pas, cinquième, quatrième, il y a éducation sexuelle, le but de ces cours, éducation sexuelle, c'est pas uniquement de mettre en garde les jeunes contre les MST. C'est pas ça le but. Il y a de ça, mettre en garde contre le sida, etc. Mais il y a également une volonté de banaliser et d'émanciper les jeunes par rapport à leur sexualité. Quand on distribue des préservatifs et tout, dans les cantines et tout, c'est pas juste pour qu'ils fassent des ballons en haut avec et tout. C'est pour qu'ils comprennent bien que, écoute, j'ai le droit, je suis en droit d'avoir des rapports intimes, mais je me protège. Et ce discours-là, pour eux, ils veulent éviter quoi? La transmission de maladies, de MST. Mais dans notre conception de la vie, c'est pas du tout la vie du mu'min. C'est pas du tout la vie du muslim, de la personne qui a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah de son cœur. Et si nos enfants, ils sont, entre guillemets, victimes de ce message-là, en permanence, de 8h à midi, de 14h à 17h, on doit faire bien attention. Si 70% de son temps, il a ces messages à l'école, quand il se connecte sur Facebook, sur Internet, il y a que ça, sur Twitter, il y a que ça, sur MSN, il y a que ça, on doit être présent. Parce qu'on vit quand même dans une certaine société, on ne va pas enfermer nos enfants, mais on doit être présent, on doit amener le bon message, rectifier et donner la bonne vision des choses, inculquer à nos enfants la limite qu'il y a entre le licite et l'illicite. Et bien sûr, il y a des choses qui sont inévitables. Quand on est au lycée ou à l'université, en cas d'université, il y a le choix. Quand il y a des TD à faire ensemble, des travaux dirigés ou des travaux en groupe à faire, ben, il y a des fois, on est dans un groupe de 4, 5 personnes, il y a des garçons, il y a des filles. La mixité à l'école, c'est compliqué. On n'est pas encore arrivé à un système, dommage, on a perdu le système d'avant, et le système anglo-saxon, même à Maurice, hein, c'est encore séparé, garçon-fille. C'est la meilleure des solutions pour éviter l'échec scolaire aussi. Mais bref, si on est dans, on va dire que la mixité, malheureusement, est une fatalité, ben, on essaie de limiter les dégâts. D'accord? On va pas dire que si dans ton groupe, il y a une fille, ben, tu dis au professeur, moi, je veux, non. Il va dire que c'est un jeune taliban, aujourd'hui, il veut pas être avec une fille, demain, il va mettre une ceinture explosive, c'est-à-dire, avec tous les images qui sont véhiculées. Mais on essaie de limiter, hein. On doit bien faire comprendre à nos enfants que d'accord, dans ta classe, tu as la moitié garçon, la moitié fille, mais toi, en tant que musulman, tu n'es pas obligé de faire la bise à tes copines, à tes amis de classe, pas dire copines encore. Tu n'es pas obligé de faire la bise. D'accord, travailler ensemble, en groupe et tout. Bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Le professeur impose, il impose. Mais montrer les limites. Et qu'il sente son identité de musulman. Qu'il ne se fonde pas dans la masse. Parce que s'il commence à craindre le regard des autres, que si, on en a discuté en classe avec les élèves, il dit que si on fait pas la bise, ils vont dire qu'on est étrange, qu'on n'est pas normal, et telle chose. S'il commence à craindre le regard des autres, dès le départ pour la bise, ben quand il faudra sortir avec quelqu'un, ben il va dire que si je ne sors pas avec quelqu'un, on va dire que je suis coincé ou que j'ai des problèmes psychologiques. Si quand on va dans le bar d'en face pour boire quelque chose et que tout le monde commande une bière et que moi je bois un coca, je bois de l'eau et tout ça, ils vont finir par se dire que je suis coincé et peu à peu. C'est-à-dire que la personne, ce jeune risque de substituer la taqwa au regard des gens. Pour lui, ce qui sera important, c'est le regard que la société va porter sur lui et non pas le regard d'Allah. Alors que le mu'min, comme ces jeunes sahaba, tabi'in, dès leur plus jeune âge, c'était la crainte d'Allah qui était l'objectif de leur vie, qui était la chose la plus importante. Donc à nous en tant que parents, et à ces jeunes futurs parents aussi, Inch'Allah, hein, de bien comprendre que l'éducation, c'est très tôt. Et la base de l'éducation, c'est la maman. Bien sûr, à la maison, c'est la première madrasa, la première école, c'est la maman. Et donc, il faut que la mère, dès le plus jeune âge, donne les bonnes habitudes aux enfants. Et à nous, parents, nous ne devons pas nous dédouaner de l'éducation des enfants. Nous ne devons pas abandonner nos enfants devant la télé, abandonner nos enfants devant Internet, devant telle chose. Nous devons montrer notre présence et véhiculer les vrais messages. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah protège nos jeunes. Il n'y a rien d'autre à demander si c'est qu'Allah protège nos jeunes de nos jours. Les choses vont tellement vite, il y a tellement de façades, il y a tellement de fitna, que si on n'a pas l'aide d'Allah, hein, Allah seul, c'est ce qui va devenir des futures générations. Hein, il y a parfois des enfants de Moulissab, des enfants de Alim, des enfants de Mufti. Il n'y a pas de garantie. C'est pas parce que le père est un Mufti, il est un Alim, il est un Hafid al-Qur'an, que l'enfant, absolument, il sera dans le droit chemin. Ça marchait il y a 50 ans, ça. Les enfants Moulissab, ils deviennent Moulissab. Le jour, on peut être fils de Moulissab, fils de Mufti, etc. Et malheureusement, on ne suit pas le bon exemple parce que l'essentiel de notre temps, on le passe à l'extérieur. Et l'essentiel du temps qu'on passe à la maison, on y est physiquement, mais l'esprit est ailleurs parce qu'on est connecté, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur tel endroit. Il n'y a pas vraiment... Le noyau familial n'est pas présent, il n'y a pas dans l'esprit de l'enfant, il n'a pas compris réellement la place de son papa et de sa maman dans son éducation. Donc le travail repose, bidnillah, sur les parents. On fait des efforts et on demande à Allah Azza wa Jal de nous venir en aide. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah accorde à nos jeunes ces qualités pour que, inshallah, tous ceux qui sont encore dans l'âge de la jeunesse auront leur place sous l'ombre du trône d'Allah le jour des comptes. Vous savez qu'Inch'Allah, dimanche, il y aura un petit jalsa aussi. Hein, il y a 9 élèves quand même, hein, de la madrasa de Saint-Denis qui terminent le Hifd al-Qur'an. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. 9 jeunes, hein, en même temps qui terminent la mémorisation du Qur'an. C'est quelque chose d'énorme. Et on doit féliciter donc ces enfants, féliciter les asatida, les professeurs qui leur ont accordé des années de patience, de persévérance pour qu'ils mémorisent le Qur'an. On doit faire doua également que ces jeunes qui finissent le Qur'an, hein, qu'ils aient l'amour du Qur'an dans leur cœur et non pas uniquement sur leur langue. Que le Coran pénètre réellement leur cœur et qu'ils mettent ce Coran en pratique. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.